Bonjour à tous et à toutes. Marc Laville, maître de conférence à l'ESPE de Rouen, et Véronique Ferré, doctorante en sciences de l'éducation sous la direction de Diane Bondouin et Richard Witowski, sont heureux de vous. sont vraiment contents que vous soyez présents à cette quatrième table ronde sur la continuité éducative. Hier, on a eu différents intervenants qui ont essayé de définir donc la continuité éducative avec, en employant des termes différents. On a eu la notion de parcours, de discontinuité, d'échéance, de fil conducteur, de continuum. Aujourd'hui, cette première table ronde a pour thème la continuité éducative. Quelles incidences liées à une situation de handicap? Donc, le concept de handicap nous renvoie aux notions d'intégration avec la loi de 1975 qui affirme que l'éducation est obligatoire et qui sera prolongée avec la loi donc, de 2005, du 11 février donc 2005, loi sur l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté, qui va définir ce que c'est une personne en situation de handicap, donc le handicap, et surtout sur le fait que la scolarisation devient obligatoire dans l'école de secteur. Donc cette loi de 2005 s'inscrit dans un contexte qui est celui donc de l'inclusion, même si le concept d'inclusion n'est pas du tout mentionné dans cette loi. Donc différents auteurs ont travaillé sur ce concept d'inclusion. Moi j'ai choisi de prendre comme définition, j'ai fait local, puisque j'ai pris un auteur de notre laboratoire, donc Amaël André, avec lequel j'ai fait un entretien l'année dernière, qui a défini l'inclusion comme une finalité, une valeur, une philosophie qui repose sur deux dimensions, l'équité et l'appartenance de tous à une communauté. C'est pourquoi cette table ronde va s'attacher à interroger donc, cette continuité éducative de cette personne en situation de handicap, mais dans un contexte d'inclusion, et ainsi de définir les incidences sur elle-même. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir trois professionnels issus de trois mondes différents. Donc, en premier, nous avons donc Clotilde Denis, qui est à la gauche donc, de Mathieu, qui est directrice du CESAD, c'est-à-dire l'école à l'hôpital, depuis 5 ans. Auparavant, vous étiez enseignante spécialisée.
Oui.
Au milieu, donc, Monsieur Jean-Marc Rimbert, qui est directeur général des pupilles de l'enseignement public en Seine-Maritime, qui siège à la Commission régionale de la santé et de l'autonomie, ainsi qu'à la Commission des droits de l'autonomie, donc dans une MDPH, en tant que représentant des organismes gestionnaires des établissements médico-sociaux. Et puis enfin, Laurence Bergeonneau, qui est enseignante référente, donc c'est une enseignante spécialisée, qui est mandatée pour accompagner les parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap et qui a travaillé auparavant pendant 5 ans dans un centre médico-psycho-pédagogique et qui travaille dans le secteur de Grand Quevilly et Petite Couronne, en Seine-Maritime également.
Donc, pour débuter cette table ronde, première question, qu'est-ce qu'une continuité éducative réussie?
Donc vous avez, pour la première question, vous avez 2 minutes environ et les questions seront un peu plus, les développements seront un peu plus conséquents pour les questions 2, 3 et 4 et je serai le maître du temps. Voilà.
C'est vous qui commencez.
C'est moi. Bien, bonjour à toutes et tous. Continuité éducative réussie, c'est peut-être celle qui ne va pas s'arrêter au temps scolaire. On est dans un milieu de l'enseignement, et puis la scolarité a une importance. Aujourd'hui, l'accompagnement scolaire des élèves en situation de handicap, n'est pas forcément partout une grande réussite, mais il y a des choses de mise en place. Bon an, mal an, cet accompagnement permet une certaine continuité dans les apprentissages, même si je vous ferai des retours d'expérience tout à l'heure où on a parfois des ruptures. Le handicap, puisqu'on s'attache à ça aujourd'hui, ne s'arrête pas aux portes de l'école. Et l'accompagnement et la réussite éducative sur les temps périscolaires, sur les temps de loisirs, aujourd'hui n'est pas une réalité, sauf à déployer des trésors d'énergie pour les familles et pour les enfants, si on s'en tient qu'aux enfants, ou pour les jeunes adultes et adultes, si on va dans le domaine de l'adulte. Donc, moi, voilà, mon approche sur la réussite sera le jour où l'ensemble des temps de vie de la personne sera notamment accompagné par différents biais, hein, et pas uniquement par des aides humaines.
Moi, tout simplement, je dirais que pour moi, que c'est une éducation qui doit s'organiser autour des besoins et du rythme de l'enfant. Voilà, je rejoins mon collègue. Voilà. Mais je pense que c'est essentiel. L'enfant doit être au centre et on doit s'atteler à savoir quels sont ses besoins et quels sont ses rythmes. Sans ça, on ne pourra pas arriver à une éducation inclusive, voilà, réussie, une continuité.
Oui, moi j'ajoutais que en fait, c'est aussi un travail en synergie avec tous les acteurs qui sont autour de l'enfant handicapé, c'est-à-dire pas seulement ni les enseignants ni les éducateurs, mais leurs familles, les professionnels qui les prennent en charge. Enfin voilà, il faut vraiment une concertation grande et un travail en synergie.
Voilà. Merci pour ce premier point abordé. Donc je lis la deuxième question. Comment les acteurs travaillent-ils ensemble à cette continuité éducative réussie? Donc sur ce point, vous avez 6-7 minutes. Voilà, excusez-moi pour mon côté.
On va le faire, je pense, à plusieurs voix successivement. Aujourd'hui, on a un positionnement, aujourd'hui comme hier, mais bon, vous avez cité les lois de 75, la loi de 2005. Ce sont des repères législatifs qui ne sont pas neutres, et une volonté des législateurs, une volonté politique quand même, de faire en sorte que le handicap soit au moins appréhendé. Aujourd'hui, on a quand même, avec l'arrivée de Sophie Cluzel au gouvernement, Sophie Cluzel était une présidente d'association de familles, d'enfants en situation de handicap, avant d'être secrétaire d'État chargée des personnes handicapées auprès du Premier ministre. Déjà, le fait d'avoir créé un secrétariat d'État auprès du Premier ministre, c'est un signal fort. Avant, on avait un secrétariat d'État, secrétariat d'État, auprès du ministre, souvent ministre de la Santé ou des Solidarités. Aujourd'hui, on a un secrétariat d'État qui est positionné auprès du Premier ministre. Et quelqu'un qui a une connaissance, on va revenir après sur l'expertise des usagers et des familles, quelqu'un qui a une connaissance du handicap et quelqu'un qui a une véritable volonté politique de travailler sur ce phénomène inclusif et sur ce virage inclusif qu'on connaît aujourd'hui. Faire travailler ensemble les acteurs, quand elle dit qu'il n'y aura plus une seule ouverture de structure médico-sociale sans qu'elle soit adossée à l'école de la République, c'est fort. C'est-à-dire que nos établissements, moi je suis gestionnaire d'établissements médico-sociaux, on a des établissements, historiquement, nos établissements, ils étaient au fond des bois dans la campagne. Hein. C'était ça, hein, les années 70, on protégeait la société, on protégeait les jeunes, on les mettait au vert. Donc beaucoup d'associations qui ont investi à l'époque des châteaux, qui aujourd'hui leur restent sur les bras. Voilà, aujourd'hui la politique c'est l'ouverture d'un CESAD, l'ouverture d'une structure médico-sociale, ça se fera adossé à l'école, voire dans les murs de l'école. Et on peut y arriver. Je reviendrai tout à l'heure sur un projet qu'on est en train de mener avec un IME au sein d'une école élémentaire. Deuxième levier sur comment faire travailler les acteurs ensemble, c'est la formation. Aujourd'hui, on a des formations en silo. L'éducation nationale d'un côté. Alors, je suis un peu ancien. Moi, je connaissais l'école normale. Bon, maintenant, ça s'appelle l'ESP, qui est proche dans son organisation de l'université. Mais en tout cas, bon, voilà, il y a ces formations-là. Il y a les formations paramédicales, médicales, dispensées par les universités. Il y a toutes les formations de travail social, IRTS, IDS, etc. Tous ces gens-là sont amenés à un moment de leur vie, professionnellement, à intervenir ensemble et dans leur cursus de formation, à ne jamais se croiser, ou très rarement, même si des petites choses se mettent en place. Ce type d'organisation et ce type de journée y participe, je pense. Mais voilà, on va demander à des gens, on demande à des gens aujourd'hui qui professionnellement ont des cursus complètement différents, de travailler ensemble. Tant qu'il n'y aura pas des formations, des modules de formation croisés, je pense qu'on n'atteindra pas l'objectif, ou tout au moins plus difficilement, ou alors uniquement sur des volontés personnelles. Aujourd'hui, il y a des choses qui marchent très bien, parce que les gens se sont connus, s'apprécient, ont parfois des relations extra-professionnelles, et du coup, ça facilite, mais ce n'est pas satisfaisant, ça, parce que ces gens-là, il y en a un qui pour une raison ou une autre, quitte l'organisation, et tout se retrouve par terre. Donc, voilà, une volonté politique, et il va falloir la mettre en œuvre, et puis les formations.
Oui. Enfin, c'est le constat que je fais de là où je travaille, hein, maintenant. C'est-à-dire que donc nous, on suit aussi des enfants, enfin des patients de l'hôpital qui sont rescolarisés. Et on rencontre des enseignants, pas toujours de mauvaise volonté, mais qui savent juste pas comment travailler avec d'autres professionnels. C'est pas, comment je vais dire, il n'y a pas une volonté d'être fermé. Il y en a un peu, hein, il y a toujours des raideurs, mais c'est pas ça. C'est qu'ils ne savent pas à qui s'adresser, ils ne savent pas comment se parler. Souvent, détail, on n'a pas du tout les mêmes plages horaires pour se contacter aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui font qu'il y a des couacs. On ne sait pas travailler, et ça, je pense qu'à part quand on est spécialisé dans certains enseignants du premier degré, on ne sait pas travailler en équipe pluridisciplinaire. On ne sait pas, par exemple, enfin, je ne pense pas qu'en formation initiale, on forme des enseignants à comprendre ce que c'est qu'un bilan de QI, où on peut travailler, sur quelles compétences, à quel endroit on peut aller chercher les choses comme ça. Enfin, je pense que ça, on n'est pas encore assez formé là-dessus. Et donc, on ne sait pas parler le même vocabulaire, on ne comprend pas le vocabulaire de l'autre, et c'est très compliqué. Enfin, moi, je sais que dans mon rôle, là, régulièrement, donc tous les 6 mois, puisque à l'hôpital plutôt, les équipes d'internes changent, donc, notamment en pédopsychiatrie. Et donc, les pédopsychiatres, moi, je leur fais un cours sur ce que c'est que l'école, comment c'est organisé, comment on peut rentrer en contact, qu'est-ce qu'on attend d'un pédopsychiatre à l'école. Parce que souvent, quand on voit le médecin qui arrive à l'école, c'est terrible. On a l'impression qu'ils vont nous dicter la loi. Or, on a besoin d'échanger. Enfin, voilà, on n'est pas sur les mêmes besoins. Voilà. Et de l'autre côté, à l'hôpital, on forme aussi, donc toute mon équipe d'enseignants, on forme les AVS qui sont auprès des élèves qu'on suit. Et en fait, on constate que du coup, les AVS sont plus formés au handicap de l'élève que l'enseignant qui reçoit l'élève dans sa classe. Parce que les enseignants ne reçoivent pas cette formation-là. Et donc, bon, bah, voilà, ça nous pose quelques soucis. On a aussi les représentations sur les maladies qui sont compliquées et qui ne sont pas encore passées dans... Enfin voilà, dans le public. Alors évidemment, on ne peut pas former tout le monde sur tout, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais vraiment, il y a des moments où on est obligé, nous, puisqu'on fait le lien entre le médical et l'école, on est obligé de rappeler des choses alors qui nous, maintenant, nous semblent évidentes. Et puis ce n'est pas évident. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, moi j'ai appelé une école pour un élève en difficulté scolaire, hein, me disaient les médecins et les psychos de l'hôpital qui le suivaient. Et en fait, il souffrait de mucoviscidose. J'appelle l'école et je dis, mais bon, c'est la maladie ou il est en difficulté scolaire? Ah non, il est vraiment en difficulté scolaire. Mais je dis, bah alors, on fait une équipe éducative, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau purement scolaire, enfin, sans la santé, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des moments, même quand on est malade, on a une scolarité. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, mais c'est pas possible, la famille, elle est mal. Enfin, voilà, ils osent pas parler, enfin... Les mots sont difficiles à dire. Il va mourir. Enfin, moi, j'entends ça derrière. C'était pas dit comme ça, mais j'entends ça derrière. L'espérance de vie pour un enfant comme ça, c'est 50, 60 ans. Il faut qu'il ait une vie professionnelle, sociale. Donc, il faut qu'il ait une formation adaptée à ses capacités. Il faut qu'on fasse quelque chose. Enfin, voilà. C'est des choses comme ça aussi, enfin, où on est obligé d'intervenir. Voilà.
Moi, j'interviens beaucoup, bien sûr, dans les établissements scolaires, puisque les équipes de suivi scolarisation
On les fait dans les établissements scolaires de la maternelle au CM2, au BTS, pardon. Et donc, de ce fait, je rencontre beaucoup d'enseignants. Et de plus en plus, on me demande des explications, comment fonctionne ne serait-ce que la MDPH. Maintenant, je propose des formations plus dans le second degré maintenant. J'ai quand même des enseignants du second degré qui, du fait qu'ils aient de plus en plus d'enfants en situation de handicap, me sollicitent. Donc je propose des formations pour leur expliquer comment fonctionne la MDPH, comment remplir aussi ce document qui s'appelle le GEVASCO, qui est un document scolaire qui doit être rempli pour chaque ESS, et qui, pourtant, souvent, ils découvrent, quand on leur dit qu'ils ont un élève en situation de handicap, il faut qu'ils remplissent ce document, et l'importance de bien indiquer... dans ce document d'être honnête dans les réponses et de bien noter par exemple le niveau scolaire de l'enfant. C'est essentiel. On demande, il y a une case dans ce document, on demande à l'enseignant de dire quel niveau a l'enfant. Parce que parfois on veut tellement bien faire, l'enfant est en difficulté, les parents sont en difficulté, donc on dit que l'enfant progresse, oui il progresse, c'est bien, mais on oublie de leur dire qu'il progresse, mais il n'a pas le niveau, parfois, de la classe, du niveau attendu pour sa classe d'âge. Et je pense que c'est essentiel aussi de travailler avec les enseignants là-dessus. Voilà. Et ce travail en partenariat, il concerne tout le monde, aussi bien les enseignants, les institutions. Il ne faut pas oublier, je dirais, dans ces acteurs qui travaillent ensemble, il ne faut pas oublier la MDPH, il ne faut pas oublier la DSDEN, qui aussi sont acteurs pour éviter toutes ces ruptures. C'est-à-dire que les délais de la MDPH, les recrutements, je parle pour la Seine-Maritime, les recrutements aussi d'AVS qui sont quand même très problématiques pour nous. Voilà. Nous, on a une structure, on a quelque chose qui s'est créé, qui est à l'essai, on va dire, en Haute-Normandie, pour les enfants qui ont des troubles, qui ont des TSA, donc troubles du spectre autistique. Et on a des intervenants pivots, donc on est région pilote. Et ce sont des personnes, en fait, qui dépendent du centre de référence d'autisme de Haute-Normandie et qui sont là, qui interviennent quand il y a un risque de rupture dans la scolarité des enfants. Des enfants et des adultes, d'ailleurs. Donc, et ces personnes interviennent de la maternelle à l'âge adulte, et elles sont là pour éviter des ruptures. Donc ce sont des partenaires qui sont quand même essentiels aussi, et qui sont, donc on est région pilote, Seine-Maritime et l'Eure. Et là, c'est vraiment très intéressant, puisqu'ils sont là pour permettre à toutes les personnes qui travaillent autour de l'enfant ou de l'adulte de se rencontrer. Ils font du lien, et ils essaient de trouver des solutions. Et voilà, c'est quelque chose qui est récent, mais qui fonctionne plutôt bien et qui est important. Enfin, je pense que c'est très important dans ces risques de rupture, parce qu'on en a quand même beaucoup, je trouve, pour les enfants qui ont des TSA.
Et, dispositif qui va s'étendre à la Normandie dans sa globalité.
Il y en a déjà en région parisienne, sur 4 départements de la région parisienne.
À rebondir sur ce qui a été dit sur le GEVASCO et l'approche des enseignants. C'est vraiment en lien avec les ruptures de parcours. Petit exemple vécu. Hein. L'enfant infirme moteur cérébral, IMC, avec une efficience scolaire, on va dire, globalement préservée. Une efficience intellectuelle globalement préservée. Mais comme tous les IMC, un certain nombre de troubles, notamment de troubles visio-praxiques. Dans une école rurale, aux alentours de Rouen, école bienveillante, hein, très très bienveillante, petite école, petite structure, donc voilà, un accompagnement qui, sur l'école élémentaire, CP, CE1, etc., se déroule avec des points réguliers, on appelle ça aujourd'hui ESS, mais avant que ça entre dans la loi, ça existait déjà. Je ne vous parle pas de ça d'il y a 20 ans, hein, ça monte une petite dizaine d'années. Les bilans réguliers faisaient état d'un enfant qui, certes, avait des difficultés, mais avec les difficultés dues à son handicap, le pauvre petit, je fais un peu exprès hein, de caricaturer, mais c'était ça. Le pauvre petit handicapé, avec toutes les difficultés qu'il a, c'est bien. c'est bien. Et on a raconté ça aux parents pendant toute la scolarité élémentaire. Et puis on arrive en début de classe de CM2, il avait en gros un niveau un an et demi, 2 ans d'écart peut-être avec sa classe d'âge par rapport à son niveau scolaire. Ça avait été plus ou moins dit, mais pas trop mis l'accent là-dessus. On arrive sur la classe de CM2, toujours ses points réguliers avec, je me rappelle, il y avait l'enseignant référent qui était arrivé. Et là, on nous dit « Ah non, mais c'est plus pareil pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, il y a l'entrée au collège. » Là, quand on parle de continuité, on est en plein dedans. « Ah, c'est plus pareil. » Comment ça, c'est plus pareil? Ça fait 6 ans que... Ouais, ça, globalement, ça va bien. Et là, c'est plus pareil. Comment vous expliquez ça? Les parents, on les ramasse forcément à la petite cuillère, parce qu'ils ne comprennent pas. Qu'on ait pu tenir un discours qui du jour au lendemain évolue parce qu'il y a ce passage au collège et que là, le scolaire revient au centre des préoccupations alors que pendant toute la scolarité, il y avait le handicap et puis on faisait avec. Et là, moi, ce que j'insiste toujours quand j'ai l'occasion de rencontrer des enseignants, avant d'avoir un élève handicapé, vous avez devant vous un élève. Alors, il faut des adaptations, il faut de la bienveillance, il faut de l'accompagnement, il faut tout, voilà. Mais il faut avoir un regard scolaire, un regard professionnel et scolaire. Alors, maintenant, il y a des outils, il y a le GEVASCO qui peut-être vient un peu normer les choses, mais il ne faut pas avoir un regard de compassion. Sinon, à un moment ou à un autre, de toute façon, va se poser une échéance, le passage au collège. On a ça aussi entre maternelle et CP. Hein. Maternelle étant historiquement très accueillante, voilà. Et puis, le passage au CP, c'est plus pareil. Le collège, le lycée, puis après, c'est les examens. Ces examens, il n'y a pas de compassion, hein, ça tombe. Bon. Et là, il y a vraiment une responsabilité des enseignants. Alors, c'est lié à la formation, on en a parlé. Mais sur le regard scolaire qu'ils portent sur l'élève en situation de handicap.
Je vous remercie. En tant que gardien du temps, je pense qu'on va fusionner les questions 3 et 4. Et on va, donc, du coup, ce sont des partenaires qui, en quelque sorte... Donc on va s'intéresser, on va se focaliser à la place des jeunes, mais également des parents dans le cadre de cette... et leur place et leur rôle dans cette continuité éducative. Donc vous pouvez commencer.
D'accord. Bon, donc on essaie de voir un petit peu comment on pouvait, en tout cas nous en tant que professionnels, comment on arrive à être un, je sais pas comment on peut dire, un lien, un catalyseur, un facilitateur, mais pas toujours, hein, parce que ce qu'on dit des fois est un peu brutal, parce que effectivement, en tant que professionnel du handicap ou de la maladie, en tout cas en milieu scolaire, des fois on va dire des choses qui sont un peu brutales, comme objectiver un niveau scolaire, disant oui, d'accord, vous l'avez amené jusque là, mais est-ce qu'il peut aller en sixième? Enfin voilà, hein, c'est. Et moi, j'expliquais, on suivait un jeune IMC qui n'avait qu'une main libre, et il voulait faire entretien des espaces verts. Eh bien, c'est un dialogue compliqué à mener, parce qu'on lui a laissé longtemps croire que tout était possible. Et je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus, et avec les familles, et avec les jeunes. Et ça, je pense, là, on a besoin de temps. On a besoin de se poser. Et on a besoin de le faire petit à petit, mais en même temps tôt. Alors, tôt dans la prise en charge du handicap et longtemps sur le, pour que ça puisse se construire au niveau du jeune homme. Enfin, là, c'était un jeune homme. Voilà. Que son désir puisse... Enfin, oui, je parlais de désir. Parce qu'il y a le désir, il y a les besoins, et puis il y a les capacités. Et on est bien obligé de trouver... le choc des réalités, où il faut bien trouver quelque chose pour que les choses soient possibles. Donc, voilà.
La notion qui a été abordée là est fondamentale, la notion de temps. On a, sur certains types de handicap, pour ne pas dire pour tous, mais j'ai l'exemple là, du handicap moteur, le temps du handicap ou de la maladie, parce que parfois, myopathie, certes on est en situation de handicap, mais il y a une pathologie, il y a une maladie qui est présente, le temps de cette maladie, qui entraîne le temps des thérapeutes, le temps des familles, qui n'est pas forcément complètement synchronisé dans, j'aime pas du tout le terme, mais je vais l'utiliser dans cette soi-disant acceptation du handicap, et le temps du jeune, tout simplement, et le temps des institutions. Et on est souvent confronté à des choses qui là s'entrechoquent complètement. Des exemples de... Dans le handicap moteur, il y a l'avantage, c'est que dans un certain nombre de handicaps, il y a des moyens de compensation technique relativement développés, importants, le plus connu étant le fauteuil roulant électrique ou le fauteuil roulant manuel. Un kiné, par rapport à un enfant myopathe, j'ai vu des enfants myopathes arriver dans un établissement ou suivis par un service de soins à domicile marchant. Voilà, la myopathie étant une maladie dégénérative. Bon. Le kiné dit, ouais, aujourd'hui il marche, mais demain, on sait, et là la science est claire, il ne marchera plus. Pour retarder ce moment-là, il faut dès maintenant qu'il ait un fauteuil roulant, d'une part pour l'habituer, et d'autre part parce que ça va moins user les tissus musculaires, et du coup on arrivera à prolonger la marche beaucoup plus longtemps. Ça, c'est le professionnel qui parle, en toute connaissance de cause. Et il a quelque part raison. La famille, le jeune. Alors le jeune, il y a deux cas de figure. Soit que il est petit et bon, voilà, il n'a pas forcément toutes les billes en main. Il voit arriver, par exemple, un fauteuil roulant électrique. C'est très drôle, un fauteuil roulant électrique. Hein, c'est une petite bagnole avec un joystick. Hein. Bon, donc voilà, les premières séances, ça passe en général pas mal. Quand le fauteuil roulant électrique arrive un peu plus tard, voilà, il y a... notamment au début de l'adolescence, il y a ce sentiment de pouvoir, de liberté, d'autonomie, parce que je peux me déplacer seul. Donc pour les enfants, il y a enfants, ados, il y a deux cas de figure. Mais les familles, quand on leur dit fauteuil roulant électrique, jouet parfois qui peut monter sur le prix de certaines voitures déjà cossues. Hein. J'ai vu des fauteuils roulants à 20, 25, 30 000 euros. Je demande d'ailleurs pourquoi ça vaut si cher que ça. Bon, enfin bon, ça, c'est ça parfois les tarifs. Et là, la famille, et pour en avoir échangé avec elle, c'est vraiment le premier ressenti. J'ai deux, trois exemples en tête là qui sortaient. C'était de dire « c'est fini ». Le sort est scellé. Si à un moment, la société, la sécurité sociale, la MDPH, etc., finance à telle hauteur, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Ils ne sont pas folles, les familles, notamment d'enfants myopathes. Hein. L'AFM a fait depuis plusieurs dizaines d'années un excellent boulot. Ils ont une expertise, une connaissance de la maladie. Voilà. Il n'empêche que malgré ça, il reste toujours quelque part un espoir, peut-être inconscient, j'en sais rien, je suis pas assez qualifié pour le dire, mais il y a toujours ce petit espoir. Et quand l'aide technique importante arrive, et donc là, c'est voilà, quand je parle de temps des familles, de temps du handicap, de temps du professionnel, et puis de temps de l'école, parce que l'école a aussi ses rythmes, là, il y a des choses qui, à un moment, s'entrechoquent. Et il faut vraiment pouvoir mettre tous les acteurs autour de la table et avoir cet accompagnement bienveillant pour pouvoir y arriver. En tout cas, moi j'ai eu des professionnels me disant ils refusent le fauteuil roulant, il faut faire un signalement, monsieur Humbert, hein, pour maltraitance. Non, non. Je n'ai jamais cédé à ça. On n'est pas dans la maltraitance, on est juste dans des choses qui, à un moment, en termes de calendrier, ne sont pas raccord. Et ça, c'est vraiment une notion importante dans cette continuité éducative au sens large.
Moi, je voulais aussi intervenir sur la place de l'enfant. Et alors, par exemple, en ESS, j'ai pour habitude de donner la parole en premier aux enfants, de façon à, s'ils le souhaitent, de façon à leur permettre de, bah, d'expliquer un petit peu leurs difficultés, ou ce qui va bien, ce qui ne va pas. Dès l'élémentaire, ils participent aux ESS quand c'est possible, avec l'accord des familles, bien sûr, de façon à ce que, voilà, ils puissent être entendus. Et qu'ils sachent un petit peu ce qu'on dit sur eux, parce que c'est vrai qu'un enfant qui n'est pas en situation de handicap, il n'y a pas une réunion comme ça officielle qui se fait. Donc c'est important pour eux de savoir. Et puis ce que je constate parfois, et là on est plus sur du niveau collège, certains jeunes, ou parfois en CM2, souhaitent que... Enfin, ils en profitent pour dire que c'est difficile pour eux à l'école parfois, ou au collège, et qu'ils ont envie qu'il y ait une explication qui soit faite à leurs camarades. Donc parfois, ça peut être quelqu'un qui intervient à l'extérieur, quelqu'un du centre de référent d'autisme, par exemple, ou alors l'infirmière qui vient pour d'autres difficultés, de façon à ce que les autres puissent comprendre. Et c'est parfois important pour les enfants d'être compris, que les autres, que leurs camarades puissent comprendre pourquoi ils sont différents. Donc ça, c'est important. Et en ce qui concerne la place des parents, moi, je dirais, comme disait M. Humbert, que pour moi, le temps des parents est essentiel. Donc, certains parents mettent plusieurs années avant d'accepter le handicap. Mais c'est essentiel de leur laisser ce temps. Je dirais que nous, les professionnels, on est là autour pour les aider, leur expliquer. Mais on n'est surtout pas là pour décider pour eux. J'ai en exemple, là, j'ai une situation sur un enfant qui avait une notification Ulysse École. L'école a vraiment fait le forcing en disant il faut qu'il y aille, voilà. La famille a fini par accepter en dernière année d'école, et en fait la famille a accepté, mais contrainte et forcée, enfin, par la pression en fait, et ce qui s'est passé, c'est que l'enfant a été vu par la psychologue pour l'orientation au collège, et l'enfant a dit mot pour mot ce que la maman a dit en ESS, c'est-à-dire que il progressait pas, qu'il apprenait pas suffisamment, voilà. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il peut y avoir conflit de loyauté pour les enfants. Si les parents ne sont pas partie prenante de cette difficulté, du handicap de leur enfant, s'ils ne l'acceptent pas, ils ne donnent pas l'autorisation à leur enfant d'avancer. Donc parfois, en tant que professionnel, aussi bien en établissement, enfin, on veut faire un peu le forcing, mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. Je pense qu'il faut travailler avec les familles, à tout prix. On est là pour co-construire avec les familles. On est là pour co-élaborer. On n'est pas là pour construire sans eux. Et je pense que ça, c'est essentiel. Il faut vraiment que nous, on comprenne ça pour pouvoir aider les familles à avancer.
Je dirais même plus, si on leur enlève ça, on ne peut pas travailler avec eux. De toute façon, enfin, je veux dire, c'est le dialogue est fermé. On a beau, nous en tant que professionnels, on est quand même obligé de tenir notre rôle de professionnel, et enfin voilà. Mais si on ne les écoute pas, si on ne les laisse pas faire les erreurs qu'ils ont besoin de faire, parce que je pense que du coup c'est une dynamique qui est nécessaire. Ils ont besoin d'aller jusque la preuve qui est pas toujours bienveillante pour l'enfant, hein, comme tout. On ne sait pas ce qui va se passer pour l'enfant, mais n'empêche que si on n'a pas cette preuve là, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Donc, de toute façon, je pense que la patience et l'écoute, il n'y a que ça qui permet d'avancer dans le suivi des familles et dans le suivi, du coup, de l'élève qui lui permet d'avancer. Mais ça va loin, c'est-à-dire que quand l'enfant commence... Enfin, moi, j'ai constaté souvent dans ma pratique, quoi, quand on a un enfant qui commence à reprendre de l'autonomie d'élève, etc., c'est les parents qui s'écroulent. Ils ne supportent pas que cet enfant handicapé qui avait besoin d'eux, qui était, auquel ils apportaient tous les soins, auquel ils étaient absolument nécessaires, Eh bien, tout d'un coup, oui, il va devenir majeur, il va devenir décisionnaire, il va devenir... Et tout ça, c'est vertigineux à ce moment-là, parce que c'est super compliqué. On est presque dans la même... Alors, je vais exagérer... la même configuration que quand la maman, elle lâche son enfant en petite section de maternelle et qu'il va falloir le laisser vivre tout seul. Et c'est compliqué pour les familles. Il y a des familles qui vivent ça très, très mal. Enfin, voilà.
Dernière intervention, excuse-moi.
Principe d'autodétermination, je crois qu'il est fondamental. Trisomie 21 France, aujourd'hui, a développé des outils dans l'autodétermination de personnes donc en situation de handicap là, trisomique, qui sont remarquables et qui permettent, y compris sur des personnes avec... atteint lourdement, hein. Voilà, d'émettre, ne serait-ce que le plus petit désir, la plus petite autonomie ou souhait d'autonomie. Donc ce principe d'autodétermination est fondamental. Le principe d'expertise des familles également. Je crois qu'on a encore beaucoup à faire dans le milieu médico-social. Alors ça, c'est indéniable. Dans le milieu médico-social, historiquement, le professionnel sait, parce qu'il est professionnel. La famille ne sait pas, parce qu'elle a un môme en situation de handicap. Je caricature un petit peu, mais ça a été, et c'est encore parfois ça. On sait, nous, professionnels, il faut 3 séances de kiné, il faut ci, il faut ça, bon, voilà. La famille... a une expertise, même si parfois elle est minime, mais elle a une expertise et il faut absolument la respecter et la prendre en compte. Non seulement la respecter, mais la prendre en compte, parce que quand on est sur des enfants sans langage oral, il y a parfois des modes de communication qui se sont développés à la maison, par des mimiques, par des signes, par je lève les yeux à gauche, à droite, etc. Si, en institution, on arrive en disant « Non, mais tout ça, c'est... Nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Le code de communication, il y en a un qui me revient en tête, c'est le COGAMO, c'est une méthode langue des signes adaptée au handicap moteur. Ça le fait pas. Ça le fait pas. On met par terre 7, 5, 6, 7 ans de moyens de communication qui avaient été mis en œuvre. Non. Peut-être qu'il faut amener la famille à utiliser un nouveau mode de communication parce qu'on sait qu'il est beaucoup plus développé et qu'il va permettre plus d'échanges. Mais ce n'est pas comme ça. Non, mais nous, on sait, professionnels, et vous allez faire ce qu'on vous dit. Dernier petit exemple. J'étais hier avec une jeune fille. Handicap moteur, je n'ai pas retenu la pathologie, mais assez lourdement handicapée. Jeune femme, 31 ans, qui a bénéficié d'un accompagnement par l'Institut du Mai, MAY, je crois. C'est dans les Pays de Loire. C'est l'ADAPT qui gère cet établissement. C'est un foyer d'accueil médicalisé qui prend en charge des adultes, là. Plutôt handicap moteur, parce que c'est l'ADAPT, c'est leur champ d'intervention. Une des conditions de l'admission, c'est la personne adulte et une démarche volontaire. C'est la famille qui, effectivement, doit soutenir. C'est ne pas être sous mesure de protection, tutelle, curatelle, etc. Aujourd'hui, parfois, handicap, curatelle, hein, handicap, tutelle, hein, c'est quasiment automatique. Hein. Et dans cet établissement, ça m'a choqué hier, ça vous choquera peut-être, la directrice assume, hein, complètement la notion de client. En disant, mes clients, madame Intel, là, c'était une de nos clientes. Donc je suis intervenu, j'ai demandé pourquoi client. Deux choses. D'une part, parce qu'effectivement, il y a une relation commerciale, même si c'est du privé non lucratif. Hein, l'ADAPT, c'est l'association, hein, c'est pas... mais privé non lucratif, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Donc il y a une participation de la personne. Donc il y a une relation, quelque part, une relation commerciale. Et d'autre part, pour les professionnels, c'est plus un usager, c'est plus... C'est un client. Et un client, quand vous êtes client dans un magasin et que vous payez, vous estimez avoir un certain nombre de droits. Et vis-à-vis des professionnels, ce regard-là est vraiment complètement différent. C'est-à-dire que là, j'ai envie d'aller aux toilettes. Je suis client, c'est maintenant. C'est pas dans 20 minutes quand vous aurez fini votre pause, machin, bidule. C'est maintenant. Alors, ça va loin, hein, mais en tout cas, sur le principe d'autodétermination, une expérience remarquable. Ils ont un site internet, je vous invite à aller le voir. C'est l'ADAPT des Pays de Loire. Et ça s'appelle l'Institut du Mai. En deux mots, du Mai, M-A-Y.
Merci beaucoup pour vos interventions très riches. Alors, on va commencer un petit temps d'échange. Je vais profiter de ma position privilégiée pour vous poser une question. Justement, sur ces deux derniers points, principalement sur l'expertise, si vous voulez, de ceux qu'on a qualifiés longtemps, c'est des partenaires particuliers, ayant des savoirs profanes. Quand j'ai préparé vos interventions, j'ai regardé la définition du travail social qui est proposée par le décret du 6 mai 2017 qui dit, pour la première fois, qui propose une définition du travail social. Et il y a une problématique connexe, me semble-t-il, avec l'éducation nationale, où on parle de co-construction, co-éducation, etc. Donc, le travail social, je lis, s'appuie sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur des savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social, et c'est ce point-là qui m'intéresse, les savoirs issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social. Il y a eu... pour prolonger cette remarque, il y a eu un rapport qui a été remis en 2015 et le sous-titre du rapport, c'était « Merci de ne plus nous appeler usagers ». Donc, en espérant que ça dépasse le simple cadre de l'usager, mais qu'on envisage l'expertise des personnes concernées, comme on dit maintenant, comme étant... voilà. Et donc... Je me souviens, quand on avait préparé la table ronde, que vous aviez évoqué, en termes de ben voilà, c'est la hiérarchie des savoirs, en quelque sorte, entre les savoirs parfois parentaux ou du feu usager et des professionnels, de parents qui préféraient privilégier des voyages plutôt que d'aller faire des séances de kiné. Et je trouvais que cette anecdote était intéressante. J'aimerais bien que vous la développiez pour l'Assemblée ici présente, s'il vous plaît.
Une tranche de vie d'une famille, enfant myopathe également, hein, myopathie du chêne de Boulogne, milieu social moyen, plutôt aisé, enfin pas du... Voilà, des gens, y compris en termes de niveau d'études, qui comprenaient bien tout ce qui se passait, qui avaient une vraie connaissance de la myopathie du chêne de Boulogne. Et une vraie connaissance de son issue. Et son issue, aujourd'hui, on sait que c'est le décès de la personne. Le Téléthon a permis de faire progresser l'espérance de vie. Hein. Ça, c'est très clair. Maintenant, l'échéance, on la connaît. À l'âge, avec des seuils critiques, à l'adolescence notamment, et puis un décès, malheureusement, sur des gens qui sont relativement jeunes. Ça, les parents le savent. Ça, les parents le savent. Alors tout à l'heure, j'ai parlé du fauteuil roulant. Dans la déformation musculaire, il y a besoin d'appareillage, genre engin de torture. Alors les corsets, je vous en passe. Hein. Les attelles de pied, de main, etc. pour éviter au maximum cette déformation qui va et faire en sorte de ralentir les effets de la maladie. Non pas ralentir la maladie, mais au moins ses effets. C'est donc ça, voilà, le kiné, toujours, je sais, moi, vous mettez des attelles, ça permettra moins de déformations, ça permettra moins de soins, ça permettra de permettre à ce que la maladie progresse moins vite et ses effets. Quand c'est le professionnel qui fait ça, qui met les attelles au gamin, il est payé pour, bon, voilà, pourquoi pas, hein, mais souvent, c'est la nuit, ces choses-là. Parce que les attelles, le jour, pour faire des activités, c'est pas pratique. C'est la nuit. Donc, ça revient aux familles, sauf dans les établissements où il y a de l'hébergement, mais sinon, ça revient aux familles. Et une famille résistant à ça. disant non. Moi, je ne veux pas. J'ai vu qu'il y avait un mot un peu grossier que j'avais prononcé dans le cadre de la préparation. Moi, je veux pas enquiquiner mon môme avec ça tous les soirs. Je comprends ce que vous me dites, vous, kiné, oui, je comprends. Mais j'assume. J'assume la responsabilité. Et tant pis. Alors là, pareil, hein, tout juste si on juge pas les parents maltraitants. Et je préfère, moi, avec mon môme, faire des voyages. Et c'est vrai que c'est un môme qui a fait plus de voyages que cette table ronde réunie, je pense. Il est allé partout dans le monde. Il est décédé l'année dernière, à 18-19 ans. Alors, effectivement, peut-être de manière prématurée. Peut-être que s'il y avait eu plus de soins, peut-être. Mais de toute façon, ça aurait été 18, 20, 25. Mais aujourd'hui, les parents assument. Je les ai revus depuis. On a pu en échanger et assument cette position qu'ils ont eue. De dire, non, voilà, notre expertise et notre projet de vie aussi. Et le projet de vie du gamin. Le gamin, il ne s'en plaignait pas de ne pas mettre ses attelles. Hein, du tout, parce que c'est contraignant quand même. Hein. Donc, voilà, c'était complètement assumé. Et là, on avait à la fois la notion de projet et la notion d'expertise qui se rejoignaient et qui s'entrechoquaient forcément avec les savoirs des professionnels. C'est évident.
Oui.
Ou pas.
Vous pouvez
Parce que non, mais moi, c'était sur le terme usager. Enfin, moi, je trouve que ça rejoint aussi... Enfin, toute la façon maintenant dont on considère aussi et l'apprenant et donc du coup le handicapé, il y a un positionnement philosophique qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'on a un autre être humain face à soi, point final à la ligne. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on...
On parle avec de l'école des singularités.
Ouais, enfin, quand tu revenais sur... Voilà, parce que je pense que effectivement, enfin, quand toi, tu reçois les jeunes pendant l'ESS, enfin, voilà, c'est des personnes à part entière qui ont des possibilités de décision et de désir et d'envie. Et enfin, voilà, c'était juste tout ça.
Loi de 75, les bénéficiaires. Loi de 2002, les usagers. Loi de 2005, la personne en tant que citoyen, hein. Et c'est dans le titre, en 2005, c'est dans le titre de la loi.
Il faut qu'on l'applique.
Avez-vous des questions ?
Laurence.
Bonjour, merci de vous exposer en tout cas. La question que je me posais, justement, par rapport à usager, personne, etc., est-ce qu'on peut vraiment parler de personne, justement, quand on voit, enfin, ça c'est mon constat personnel, hein, quand on voit par exemple que certains enfants dans les écoles sont pris en charge par des ABS avec qui ça marche bien, on s'entend bien avec elles, les parents sont à l'aise avec cette personne, et puis finalement, un an et demi ou deux ans après, pour des raisons de contrat, eh bien c'est une autre personne qui va prendre en charge cet enfant. Alors, du coup, la question que j'aimerais avoir votre avis, est-ce que là, d'un point de vue plutôt politique ou financier, qu'on ne considère pas l'enfant cette fois-ci comme un usager et non pas comme une personne. Et est-ce qu'avec la nouvelle personne au gouvernement que vous signaliez tout à l'heure, est-ce que les choses peuvent évoluer un peu, enfin, quel est votre sentiment?
Je sais pas, moi je reviens très rapidement. On n'a jamais dit que l'éducation nationale était une institution bienfaisante.
Et bienveillante.
Ou bienveillante. Ben voilà, elle est aussi comptable, quoi, d'abord. Enfin...
Alors, sur les AVS et sur l'accompagnement, plusieurs choses. Bon, déjà, moi je suis un fervent militant du droit à la compensation, mais. Quand je dis ça, c'est uniquement traduire la loi de 2005 hein, et celle de 75 aussi. Pas mettre sur 2005 tout, hein, parce qu'en 75, 95% de la loi de 2005 était écrite hein, déjà. Le droit à la compensation, il existe et il faut le respecter. Le fait que trop souvent, on voit handicap égal AVS, par contre, ne doit pas exister. Tout type de handicap ne nécessite pas un AVS. C'est parfois contre-productif. ne nécessite pas forcément un AVS temps plein. Il faut aussi laisser... comment on travaille l'autonomie si on a tout le temps quelqu'un à côté de soi? Et à l'adolescence, ça valse. Hein. Je veux dire, les AVS, parfois, c'est les mômes hein, qui les giclent. Hein. Ce n'est pas l'institution. Hein. Et parfois, les frappes. donc, il y a ça. On a été plusieurs associations, et les PEP en font partie, à militer il y a une dizaine d'années sur la professionnalisation des AVS. Et nous, on disait deux choses. On disait ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire que l'accompagnement ne s'arrête pas aux portes de l'école. Et remplaçons le S de scolaire par plutôt un S qui voudrait dire social et scolaire et social, pour pouvoir englober l'ensemble des temps de l'enfant. On disait niveau de qualification. Aujourd'hui, comment, tout à l'heure, vous disiez que vous interveniez en tant qu'enseignante référente jusqu'au BTS, comment quelqu'un, peut-être un peu violent ce que je vais dire, mais tant pis, je le dis, comment quelqu'un qui a un niveau 5, c'est ça aujourd'hui le recrutement des AVS, voire infra. Niveau 5, CAP avec toutes les qualités que peuvent présenter certains CAP et les personnes. Ce n'est pas un jugement de valeur. Hein. Mais comment on accompagne quelqu'un qui est en études supérieures? Sur la prise de notes, par exemple. Ça ne peut pas être simple. Hein. Le niveau 5, ce n'est pas l'éducation nationale qui l'a décidé, c'est Bercy. Et ce n'est pas ce gouvernement-là. Hein. Ça remonte quand même à... Voilà, ça a été une décision, et clairement assumée, c'était une décision budgétaire. Et là, vous avez raison. C'est vrai qu'on n'a pas professionnalisé, on a CDIsé un petit peu. Donc on a un peu plus de continuité maintenant. Même quelques progrès, même si j'entends que ce n'est pas...
Moi, je dirais que non. Je suis désolée. Bon. Ouais, c'est la marche. Pour moi, il n'y a pas de continuité, effectivement. Enfin, ce que vous dites, je suis d'accord. On n'a pas de... Enfin, il faut humaniser un petit peu la DSDEN, enfin, la direction des services académiques, hein, parce que là, il n'y a aucune continuité, même quand on demande. Enfin, moi, je fais partie des parents me sollicitent, on redemande, même quand on demande à ce que ce soit le même AVS, même si, et on s'aperçoit que ces personnes-là, elles sont recrutées, mais pour d'autres enfants. C'est-à-dire que c'est pas comme si le contrat n'avait pas été renouvelé. On est bien d'accord. Et je pense pas que le changement de ministre. Enfin bon, je pense pas que ça soit si haut, qu'il faille faire des changements. Je pense que c'est localement. Il faut vraiment qu'il y ait des choses qui se passent dans les DSDEN pour que on se rende compte que ce ne sont pas des dossiers, mais que ce sont des enfants qui sont derrière.
Des enfants et des AVS qui sont aussi personnes et qui souffrent aussi.
Ah ben bien sûr.
Et je suis d'accord. Parce qu'elle aussi, elle souhaite la continuité de suivi des enfants qu'on leur confie.
Bien sûr. Mais je suis tout à fait d'accord.
Quoi. Et le souci des AVS, c'est qu'elles n'ont pas de lieu de parole, elles n'ont pas de représentation, et elles n'ont aucun moyen de se défendre sur leurs droits, puisque officiellement, enfin, je suis désolée, mais il n'existe pas réellement ce statut d'AVS.
Complètement d'accord. Ça avait été confié à certaines associations pendant un temps. Hein. Moi, j'ai eu en tant qu'employeur des AVS avec des CDI qu'on essayait d'accompagner, qu'on essayait de former pour le compte de l'éducation nationale. Pour le coup, hein. on servait en gros d'intermédiaire. Le jour où les financements se sont arrêtés, par contre, ça nous est retombé dessus. C'est que comme on était employeur, bah, c'est à vous de les licencier hein, et d'assumer les conséquences du licenciement. Bon. Le fait, dès le début, d'avoir ciblé principalement des emplois aidés était déjà une erreur fondamentale. Non pas pour les emplois aidés. J'ai toujours été plutôt favorable à cette mesure-là quand elle est bien utilisée. Mais on sait que les emplois aidés s'adressent à des personnes qui sont en difficulté d'insertion professionnelle, parfois sociale. Moi, j'ai vu des gens quand même en très grande difficulté sur des CUI, CAE, enfin, on appelle ça maintenant parcours emploi compétences. Bon, des gens qui pouvaient être en grande difficulté personnelle. Les mettre en accompagnement d'une personne qui est elle-même en grande difficulté, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, avec une formation inexistante, et quand elle existait...
Quand on voit justement nos acteurs du secteur social, la prise de distance, comment on fait, ne pas attacher, etc., etc., quand on prend le profil de personnes, c'est des choses que...
C'est, complètement. Oui.
Personnel en plus, parce qu'on a voilà, parce que c'est Ulysse. Mais c'est vrai que c'est compliqué de, pour les familles, effectivement, l'acceptation du handicap, c'est quoi, c'est un an, deux ans, la méconnaissance des dispositifs, les possibilités d'accompagnement. Les enseignants sont. Alors maintenant, ça va, on travaille depuis quelques années ensemble, on sait que c'est possible, mais la présence de la BS sur le temps de l'année.
Mais en même temps, il y a aussi un problème de moyens, c'est-à-dire que quand on a des notifications sur, avec pause méridienne, par exemple, et qu'ils annoncent AVS 12 heures avec pause méridienne, souvent l'école demande à ce que ça soit sur le temps d'école.
Ça, on arrive à travailler ensemble.
Oui, c'est un peu compliqué aussi. Il y a rarement, moi, vraiment, j'ai rarement des AVS temps plein avec pause méridienne. Hein. Ouais. Ça n'arrive pas. En principe, AVS temps plein, ça, c'est rarissime. Sauf dans des niveaux, pour des enfants plus âgés, mais pour les jeunes.
Ou des gros handicaps moteurs.
Voilà, gros handicaps moteurs. Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même plutôt rare. Globalement, moi, j'ai... Oui, j'en ai peu.
Mais ça bouge, les lignes bougent quand même. Hein. Les lignes bougent. De tous les côtés, même si on peut paraître et on a pu paraître critique. Mais bon, voilà, c'est aussi avec ça qu'on arrive à faire avancer. Mais les lignes bougent de tous les côtés. Du côté de l'éducation nationale, les lignes bougent, c'est pas parfait. Du côté de la MDPH, les lignes bougent aussi. Donc on peut penser que ça va s'améliorer. Et quand on a en plus des partenaires que sont les collectivités territoriales, qu'ils soient les municipalités ou les... Ou le conseil. Alors, le conseil départemental est forcément un partenaire, puisque il y a un certain nombre de prestations qui sont aussi à sa charge. Ça va mieux. Voilà. Moi, je suis assez optimiste, quand même.
Ouais. Pour rebondir, il y a une question, juste une dernière question.
Moi, je pense que ça au niveau des terrains. C'est-à-dire les professionnels, il y a vraiment une mise en mouvement des professionnels qui disent « bon, là, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble ». Mais il y a des initiatives, j'ai envie de dire, l'initiative elle vient de la mobilisation des ressources des professionnels. Et je trouve que institutionnellement, ils sont de moins en moins aidés. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils développent autant d'énergie. Moi, je trouve qu'il y a de moins en moins d'accompagnement institutionnel et formation aussi. Moi j'observe, et puis par rapport au colloque sur les vulnérabilités la semaine dernière qu'il y avait à Caen, c'était quelque chose qui avait l'air de l'ensemble des chercheurs avaient l'air de dire qu'il y avait une mobilisation, mais peut-être pour ne pas justement se retrouver complètement démunis et complètement. Donc, il y a quelque chose qui s'invente au niveau des professionnels, mais
sur le terrain.
Parce qu'ils sont obligés d'inventer quelque chose parce qu'ils sont en fait
protéger.
Ouais. Pour répondre, quand même, je ne suis pas sûre que l'institution elle fasse plus rien, parce que je pense que du coup, maintenant, elle existe et on n'est plus, par exemple, obligé de rappeler, enfin, pareil, je suis un petit peu âgée, hein, on n'est plus obligé de dire, mais si, vous êtes obligé de le prendre dans votre classe. Enfin, moi, quand j'ai démarré, un élève handicapé, on devait répéter à l'enseignant, mais si, vous devez le prendre. C'est obligatoire. Enfin, maintenant, on ne rappelle plus ça. Enfin, je trouve que quand même, il y a des... les textes commencent à être sus, connus. Enfin, quand même, donc ça... Ça avance. Enfin, moi, je trouve, on n'est plus dans le... Il y a encore, hein, les troubles du comportement, ça, on n'y est pas encore. Mais pour tout le reste, ça... Ben voilà, c'est plus une question, même si les gens l'accueillent pas toujours de façon festif.
Oui, ça, hein, c'était rare, je dirais. Mais oui. Ce que madame disait, c'était plus les institutions. Enfin, moi, je pensais mais... plus la NDPH, c'est ça que vous voulez dire.
Ah oui.
Il y a l'idée d'une formation à accueillir aussi, cette idée de l'accueil.
Je coupe un tout petit peu parce qu'il y avait une question, il nous reste très peu de temps, il y a des questions également.
J'étais à l'ESS pendant 4 ans, depuis 2016 jusqu'à 2018. Ils avaient dit que les ABS sont informés et pourtant, quand on prend en charge un enfant en situation de handicap, et quand le handicap n'est pas moteur, n'est pas physique, on demande de quel handicap l'enfant souffre-t-il. On nous dit c'est confidentiel, ça s'écrit, voilà, on est tous. Et puis, nous n'avons pas le droit d'échanger avec les parents, sans passer par les professeurs. Alors, comment concevra, ma question est la seconde, comment concevra une continuité éducative pour les familles du handicap du moment où il n'y a pas d'échange entre les ABS, et les parents?
Merci. Moi, je dirais que ça, c'est pour vous protéger. Oui, je comprends bien. En fait, on a eu quand même relativement... Enfin, je dirais pas souvent, mais il est arrivé qu'il y ait des gros soucis avec des familles, on va dire. Quand tout va bien, vous avez de bonnes relations avec la famille, c'est parfait. C'est-à-dire que vous êtes dans l'échange permanent, enfin, vous donnez des nouvelles, tout va bien. Mais quand la situation se dégrade, justement, je dirais pour... on arrive à un moment peut-être de rupture où tout n'a peut-être pas été dit, où on se rend compte qu'il faut une orientation ou quelque chose. Donc la famille peut comprendre que l'enfant est en difficulté alors qu'avant, ça avançait à peu près, j'irais. Et quand il y a une difficulté, c'est vous qui êtes en première ligne. Les AESH, vous êtes en première ligne. Et moi, j'ai eu des situations assez douloureuses, hein, c'est-à-dire des parents qui ont demandé le changement d'AVS sans prévenir ou l'AESH sans prévenir et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans contrat. Et pour des raisons, voilà, les parents avaient dit « on n'en veut plus ». Voilà, donc je pense que c'est important, enfin, c'est fait pour vous protéger. S'il y a besoin d'avoir des informations, vous pouvez rencontrer les parents, mais avec l'enseignant. C'est pas que l'enseignant qui va rencontrer les parents. Vous pouvez le faire avec les... vous pouvez voir les parents, mais avec l'enseignant. L'idée est toujours de vous protéger, parce qu'on a eu des situations extrêmement douloureuses et extrêmement difficiles à vivre. C'est pour ça, en fait, c'est vraiment ça.
Et par rapport au diagnostic, enfin, ne pas expliquer ce qu'il y a comme handicap, la plupart du temps, c'est pour des troubles du comportement. Hein, ça, enfin, je pense, hein, sinon, en général, tous les autres handicaps, en général, sont verbalisés, enfin, en gros. Hein. Et ce qui se passe, c'est que normalement, donc, quand il y a eu un dossier MDPH, le rôle de l'AVS est détaillé dans la notification, à minima, mais elle est quand même détaillée. Et c'est quand même aux parents... puisqu'ils sont détenteurs de cette notification, c'est quand même aux parents à faire la démarche auprès de l'enseignant pour remontrer cette notification et dire à quoi va servir l'AVS. Et là, effectivement, il y a un problème de communication, mais ça, normalement, ça doit se faire.
Mais en même temps, vous appliquez, je dirais, la pédagogie de l'enseignant. Donc c'est toujours l'enseignant qui est responsable de sa pédagogie dans la classe. Dans la mesure où celui qui est responsable de la pédagogie et que vous appliquez sa pédagogie, voilà, c'est toujours l'enseignant qui est responsable de sa classe et de ses élèves. Donc c'est pour ça aussi que, voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas en lien direct. Enfin, moi, je sais, quand on fait passer les entretiens, on rappelle bien que les AESH n'ont pas donné leur numéro de portable aux parents.
Et dans la formation, on le redit.
Voilà. Oui.
Éviter. Ou alors il faut un portable professionnel, mais on n'en est pas là.
Bien. Encore des questions? Allez-y.
Bonjour. Je suis éducatrice spécialisée sur une unité de soutien à l'inclusion. J'accompagne des jeunes déficients intellectuels du comportement de la conduite. je pense à la continuité au-delà de la scolarité aussi par rapport aux jeunes qu'on accompagne. Donc on associe les familles vivement dans le projet de leur enfant. On prépare en amont les ESS avec les familles, le jeune, les enseignants également. Et il y a parfois un certain déni du handicap qui n'est pas forcément entendu sur une ESS lorsque les enseignants rapportent des difficultés, surtout quand il s'agit trop du comportement et de la conduite, puisqu'il ne s'agit pas de handicap à proprement parler, qui n'est pas visible, donc c'est compliqué pour les familles. Nous, ce qu'on a pu remarquer, c'est que quand un jeune est en stage, le discours du maître de stage prend toute son importance et a vraiment du crédit auprès des familles lorsque le maître de stage va dire bah, « le jeune là, il n'est pas employable ». Donc on se permet, on s'autorise maintenant à poser des questions, à savoir si l'élève sera employable ou non. Et souvent, on arrive en bout de course. Donc ça va être sur une fin de parcours, lycée, EREA, où là, on se retrouve un peu en bout de course. Il n'y a pas d'emploi possible vers quoi on va.
Sur le trouble du comportement, il est clair que là, alors, il est aujourd'hui estampillé handicap parce que les dossiers passent à la MDPH. Hein. Bah, c'est vrai que ça m'interroge. Hein. Est-ce que ces dossiers-là... Après, le problème, c'est que s'ils ne passent pas à la MDPH, quels accompagnements il va y avoir de proposer par uniquement l'institution scolaire qui va se retrouver toute seule face à ça, et avec les difficultés que ça représente. Parce qu'aujourd'hui, quand on est interpellé par les écoles, c'est rarement pour l'enfant handicapé moteur. Hein. Oui, parfois, il faut agrandir la porte. Mais bon, voilà, on fait venir le maçon, on agrandit la porte. Hein, c'est
oui,
pas un problème.
Et puis ça ne blesse personne.
Oui, ça ne blesse personne. Le trouble du comportement, c'est celui qui met l'institution scolaire le plus en difficulté, avec des réponses qui... Vous travaillez dans ce milieu-là qui ne sont pas magiques, et même le secteur médico-social n'a pas là, pour le coup, toutes les réponses. En tout cas, ce qu'on peut constater, nous on a développé ça, on gérait un ITEP et un CESA de troubles du comportement, un service de soins à domicile. Je dis on gérait, parce que, pour en revenir tout à l'heure, l'institution bouge quand même un peu. Il y a quelques années, un enfant en établissement, c'était un enfant en établissement. Un enfant en internat, c'était un enfant en internat, en externat, en CESAD, avec des prix de journée différents, etc. Et la Sécu, derrière, qui ne payait pas la même chose. Aujourd'hui, et là, on devrait l'avoir avant la fin de l'année, on a enfin une autorisation de l'ARS, un agrément, pour un dispositif ITEP, faisant fi de l'internat, l'externat, le service de soins à domicile, etc. Ce qui nous permet d'adapter la réponse, non plus à de l'activité, parce que parfois, en tant que gestionnaire, on a aussi besoin de faire du prix de journée. Hein, on a eu besoin. On est en dotation globale maintenant depuis plusieurs années. Mais d'adapter l'accompagnement aux besoins et aux attentes. Ça, c'est des avancées significatives. C'était inconcevable il y a 10 ans. Hein, inconcevable. Et là, je suis en train de demander la même chose pour un IME avec un CESAD et pour l'Institut d'éducation motrice et le CESAD d'efficience motrice, pour qu'on puisse avoir, au-delà des aspects budgétaires, parce qu'il y a des sous derrière, forcément, et c'est aussi une réalité à prendre en compte. Et donc là, il y a des avancées. Pour en revenir donc au trouble du comportement... Le fait, alors ça touche pas tous les établissements, mais le fait, nous on a toujours fait le pari de classes externalisées. On n'a plus de classes à l'interne. On a des possibilités de repli, parce que parfois le matin, on sait qu'il ne faut pas y aller, parce qu'on va mettre à feu et à sang le collège. On sait qu'il ne faut pas y aller, donc il faut avoir la solution de repli, mais nos classes sont externalisées. Et en externalisant, notamment dans les collèges, on arrive aussi à avoir une certaine position de personnes et nos personnels, de personnes ressources, qui permet aussi d'essaimer un petit peu et d'aller au-delà des seuls jeunes de l'ITEP, mais de pouvoir aller donner aussi un coup de main aux collègues, parce que des gamins qui ont des troubles du comportement qui sont estampillés et qui sont en ITEP, ceux-là, dire qu'il y a un accompagnement. Mais il y en a plein d'autres à côté dans les collèges et dans les collèges. Ouais. Qui ne sont pas estampillés et qui mettent les enseignants en grande, grande difficulté. Et moi, je crois beaucoup aujourd'hui, et c'est une volonté de l'Éducation nationale, et je la salue, sur des pôles ressources qu'on puisse organiser. On a des moyens dans ce pays. On a des moyens médico-sociaux. On a des enseignants référents. On a des enseignants spécialisés. On doit pouvoir organiser des pôles ressources pour les enseignants ordinaires qui sont aujourd'hui complètement démunis parce que l'absence de formation initiale... Enfin, pas l'absence, mais le handicap dans la formation initiale, ça doit être 3 demi-journées et encore. Et puis la formation continue, on n'en parle même pas. Elle est réduite à peau de chagrin. Moi, j'ai une liberté de parole vis-à-vis de l'éducation nationale, hein, ça va.
Alors, je vous demande juste un dernier échange. Clotilde va reprendre une dernière question et une réponse très, très courte parce qu'on a
alors,
débordé.
Très, très court pour le trouble du comportement. Le problème, on ne va pas se mentir quand même. Parce que, enfin, donc, moi, je les vois passer en psychopatho et puis il faut bien les rescolariser. Et les solutions à tricoter, elles sont super compliquées. Parce qu'il faut un suivi, donc quand c'est des petits, hein, un suivi CMP, enfin, des choses bien... bien fournie tout autour du gamin, que l'école accepte certaines choses, qu'elle soit souple. Elles le sont de plus en plus. Hein. Les écoles, quand même, elles acceptent des PAI, des aménagements d'emploi du temps dans la journée, sur les activités, sur les niveaux. Mais n'empêche que c'est ça qui empêche de travailler. Ça blesse. Enfin, je pense que le trouble du comportement, ça renvoie quelque chose à l'institution, à ses enseignants, de tellement violent. Parce que ça les remet en cause. Enfin, je veux dire, un enseignant, il ne peut pas entendre que le savoir n'est pas désiré et que enfin, c'est juste incompatible avec son métier et que ça, il faut le construire et il faut y réfléchir vraiment sérieusement. Donc voilà, moi, je n'ai pas de solution, juste que ça blesse tout le monde. Voilà, c'est pour ça que je disais pas de blessure tout à l'heure. Voilà.
Dernier.
Oui, j'ai une question par rapport à l'esprit de la loi de 2005, justement. Normalement, avec... la politique inclusive, ce sont les écoles qui doivent se transformer. Donc ma question porte sur le niveau scolaire et je me demande si au lieu de penser niveau, de penser en élémentaire, on a dit ils progressent et on les a leurrés, en fait oui, ils progressent par rapport à son point de départ, ouais. C'est dans l'esprit de l'école inclusive et il me semble moi que c'est plutôt l'inverse, c'est le second degré. Peut-être, pour être dans l'esprit de la loi, qui devrait s'adapter, justement, et ne plus parler de niveau requis. Ceci dit, la question des examens qui n'ont pas changé, vous donne raison quand vous parlez de niveau, mais cette rupture, je pense qu'il faut assouplir la question du niveau aussi, parce que l'école est censée se transformer pour permettre justement à tout le monde de progresser. Donc, effectivement, il y a cette coupure à l'entrée en sixième qui, à mon avis, devrait, à l'inverse, c'est le second degré qui devrait s'adapter, c'est pas le premier degré.
Bon, en même temps, vous dites que l'école, elle n'empêche pas de progresser. Hein. Même quand on donne un niveau scolaire à un enfant. Parce que ce que vous disiez, j'avais l'impression que vous disiez qu'on l'empêche. Oui, c'est à l'école de s'adapter, mais on n'est pas là pour... Enfin, l'enfant continuera à progresser, mais on réfléchit ensemble à trouver une solution pour qu'il continue à progresser dans de bonnes conditions. C'est ça l'idée. Alors, quand je parle d'orientation, ça peut être Ulysse, par exemple. C'est ce à quoi je pensais. Et effectivement, parfois, les parents ne se rendaient pas compte que l'enfant n'avait pas le niveau requis, mais ouais. On lui permet quand même de continuer à progresser au sein de l'école. Hein. Enfin, de l'école.
Mais c'est à l'école de s'adapter, je suis entièrement d'accord. Et je pense qu'elle a montré au fil de l'histoire son adaptation. Hein. Reprenez des textes de 1909 où on parlait de débiles dans les classes de perf de l'époque. Donc on a progressé. Après, elle progresse dans son organisation, mais dans ses contenus. Est-ce qu'il faut qu'elle évolue dans ses contenus? Là, j'ai pas forcément de réponse parce que attention qu'on n'ait pas, je sais pas, de manière peut-être un peu rapide, mais un nivellement par le bas en disant bon bah on baisse un niveau d'exigence pour que tout le monde rentre dans le moule. Pour moi, là, l'école inclusive, c'est pas ça. On a une école. Alors après, on peut critiquer les programmes, mais on a une école, on a un cadre. C'est comment ce cadre, par contre, va s'organiser pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier. Je suis un grand défenseur, et je ne peux pas faire autrement, mais de par mon appartenance au PEP, de l'intégration depuis toujours et de l'inclusion aujourd'hui. L'inclusion, ça ne veut pas dire que tous les enfants à tous les moments de leur vie, enfants, ados, etc., ont une place dans l'école ordinaire. Il y a des gamins qu'on met dans vos classes, qu'on met dans les classes de l'élémentaire, du collège. C'est juste scandaleux. Pour tout le monde, pour le gamin en premier, pour les enseignants, pour le groupe classe, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura jamais sa place. Alors, dans le trouble du comportement, on a ça tous les jours. C'est pour ça que je vous dis, nous, nos classes sont externalisées, mais on a une solution de repli. Parce qu'on sait très bien que le lundi matin, quand Jason il a pété un câble parce que le week-end s'est mal passé, ce n'est pas la peine qu'on aille dans l'école ordinaire. Ça ne va pas être inclusif. Ça ne va pas être inclusif. Il va se faire jarter. Donc, voilà. Attention à l'inclusion aussi, hein. Et aux effets de balancier, moi, dans mes mandats, notamment auprès de l'ARS, et j'ai le même discours auprès de l'Éducation nationale, attention, parce qu'on est passé de l'établissement, effectivement, au fond des bois, complètement fermé, et on a l'impression qu'aujourd'hui, l'inclusion, c'est... il n'y a plus d'établissement, tout le monde est dans le milieu ordinaire, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Non, il y a des enfants, à un moment, pour lesquels il faut un autre accompagnement. Et là, on rejoint la notion de parcours. Et dans la notion de parcours, effectivement, avant le parcours, un IME, on y rentrait à 6 ans, on en ressortait à 20 ans. En général, peut-être plus handicapé quand on en est sorti que quand on y rentrait. Hein, parce que 14 ans d'institution ou 15 ans d'institution, ça laisse des traces. Hein. Aujourd'hui, on n'a plus ça, mais on a une notion de parcours avec le milieu ordinaire quand c'est la bonne réponse et le milieu médico-social quand c'est une réponse autre qu'il faut. On pourrait encore en parler des heures.
Merci beaucoup pour ces échanges.